NRF 100 ans de littérature. Suite de cette exploration à travers l'histoire de la Nouvelle Revue Française, dans ce deuxième épisode aujourd'hui sur ce qui fut sans doute l'âge d'or de cette revue, l'entre-deux-guerres. Hier, nous avons vu les débuts de cette grande aventure littéraire, le parti pris du groupe fondateur emmené par Gide de placer la littérature au-dessus de la politique et, en matière esthétique, le choix revendiqué d'un classicisme moderne. Aujourd'hui, nous allons voir l'entrée en scène d'un nouvel acteur, primordial pour comprendre toute la suite de l'histoire de la NRF, un passionné de littérature qui a consacré sa vie aux revues littéraires, Jean Paulhan. Nous parlerons aussi du formidable succès de la revue dans les années 20 et 30, période au cours de laquelle la NRF arrive à attirer tous les plus grands auteurs du moment. Quelques noms peut-être pour donner la mesure de son importance. Monterland, Morand, Cocteau, Breton, Éluard, Ponge, Malraux, tous ont été publiés dans la Nouvelle Revue Française. Alors comment des écrivains aux styles si différents, aux opinions politiques opposées, sont entrés dans les mêmes sommaires ? Est-ce justement cet équilibre entre avant-garde et tradition, entre modernité et anti-modernité, qui a fait de l'entre-deux-guerres l'âge d'or de la NRF ? Des questions que nous allons poser à Claire Paulhan et Antoine Compagnon, qui nous font tous deux l'amitié d'être avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Claire Paulhan, vous êtes éditrice. Vous dirigez la maison d'édition Claire Paulhan, spécialisée dans l'écriture de l'intime, les mémoires, les autobiographies. Vous avez par exemple édité le journal de Jacques Copeau, dont on a vu l'importance hier, mais aussi des correspondances très importantes pour comprendre l'histoire de la NRF, comme celle de Jean Paulhan, votre grand-père. Antoine Compagnon, vous êtes professeur au Collège de France et à l'Université de Columbia. Vous avez publié, entre autres, « Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes », ainsi qu'une nouvelle édition des « Réflexions sur la littérature » de Thibaudet chez Gallimard en 2007. Claire Paulhan, Antoine Compagnon, on a parlé des fondateurs hier. On a vu l'importance des rencontres individuelles. Alors Claire Paulhan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Jean Paulhan a rencontré les hommes de la NRF ?
Il les a rencontrés par admiration d'abord pour la toute première NRF dont il n'était pas. Il a rencontré Jacques Rivière en 1919, donc après la Première Guerre mondiale, après la captivité de Jacques Rivière et sa refondation de la Nouvelle Revue Française. Probablement il======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== Sa toute première critique a d'ailleurs été refusée par Jacques Rivière, ouais. Ce qui ne l'a pas tout à fait découragé. Jacques Rivière s'est rendu compte assez rapidement que son travail de directeur de revue, s'il l'intéressait énormément, lui mangeait absolument toute son énergie. Et sa vie personnelle faisait qu'il avait vraiment besoin à ce moment-là de travailler à autre chose que la revue. La revue certes, mais aussi son œuvre littéraire à lui. Donc il a eu besoin d'un secrétaire. Et Jean Paulhan a tenu ce rôle pendant quelques années, c'est-à-dire qu'il était rédacteur au ministère de l'Instruction publique dans la journée, et à partir de 5 heures, on le trouvait à la NRF, où il remplissait des tâches de secrétariat. Et il aidait Jacques Rivière à composer les sommaires, à réclamer les textes, à les mettre en page, à relire les épreuves. On a d'ailleurs dans les archives de Jean Paulhan des pages extrêmement intéressantes qui sont partagées en deux, avec, selon les moments, les questions de Jean Paulhan ou de Jacques Rivière sur la partie gauche et les réponses de l'autre côté. Donc on a la fabrique de la deuxième NRF, celle de Jacques Rivière, qui est particulièrement éloquente parce qu'on voit à quel point le rapport entre ces deux hommes était à la fois d'une grande courtoisie, d'une très grande érudition, d'un très grand respect pour les auteurs et avec une très haute idée de ce que doit être une revue littéraire.
Et Jean Paulhan, quand il rencontre Jacques Rivière, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il?
Oh, il n'a pas fait grand-chose.
Il a voyagé.
Il a voyagé, oui. Il a surtout cherché à fuir l'arrivée dans la vie sociale. Il y a eu un voyage à Madagascar dans la fin des années 1907-1910. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a été une sorte de récréation sanglante pour lui comme pour d'autres d'ailleurs, pendant laquelle il s'est mis à écrire beaucoup. Il s'est séparé de sa femme Salah. Et voilà, il était au terme d'une crise existentielle assez importante. Et donc, il s'est rapproché d'un groupe littéraire à travers les figures de Gide, bien sûr, de Schlumberger aussi, mais oui. aussi beaucoup de Jacques Rivière, qui a vraiment pris en main la revue à la suite de sa captivité. Donc, il avait eu le temps de réfléchir pendant 4 ans de captivité sur ce que devait être une revue littéraire.
Alors, on parle de Jean Paulhan, on va tout de suite entendre sa voix.
J'ai rencontré à la NRF un milieu très, très ouvert, très généreux. Un milieu qui était tout prêt à admettre qu'un jeune auteur est forcément difficile, qu'il faut le laisser écrire des choses très absurdes ou très discutables, et que les choses neuves qu'il apporte se dégageront peu à peu dans la suite. Je crois que Henri Michaux, dont les premiers poèmes ont provoqué pas mal de désabonnements, eh bien, lui aussi a toujours su que, malgré les désabonnements, la Nouvelle Revue Française tiendrait bon et qu'une fois qu'elle s'était fixée sur un auteur qui lui paraissait un bon auteur, elle resterait fidèle. Je crois que c'est surtout cela qui a fait la force de la Nouvelle Revue Française, que les jeunes auteurs un peu difficiles se sont sentis du premier instant chez eux.
Très belle définition de l'esprit NRF, Antoine Compagnon.
Oui, il y a eu un certain nombre de jeunes poètes que Paulhan a beaucoup soutenus. Il a cité Michaud, on peut penser à Ponge. Enfin, ce sont vraiment des œuvres qui ont été soutenues pendant longtemps, alors qu'elles n'ont connu le succès finalement qu'après la Seconde Guerre mondiale.
La NRF a une fonction de découvreuse de nouveautés dans l'entre-deux-guerres ?
Elle a découvert des nouveautés, elle a aussi exploité un certain nombre de succès qui existaient déjà, hein, de l'avant-première guerre mondiale. Hein. Par exemple, Apollinaire a été repris par les éditions de la NRF, alors que Alcool, qui est aujourd'hui le best-seller de toute la poésie française du XXe siècle, c'était très peu vendu au Mercure de France avant la Première Guerre mondiale, et Gallimard a racheté le fonds au lendemain de la Première Guerre mondiale, et on est entré dans une autre période où l'édition était beaucoup plus commerciale, après 1919, et il est certain que la maison d'édition a été à ce moment-là plus solide. Hein. C'est aussi le moment où Proust a été un oui. important succès.
Alors justement, sur Proust,
de librairie très vite, après 1919, quand Proust a eu le prix Goncourt pour oui. Les jeunes filles en fleurs.
Oui, justement, hier, dans l'émission qui traitait des fondateurs, on a laissé une question en suspens. On a vu qu'il y avait eu un rendez-vous manqué de la NRF avec la recherche du temps perdu, puisque dans un premier temps, la NRF a refusé le manuscrit de Proust. Et alors, quand je lis Thibaudet, les réflexions sur la littérature, je lis une chronique de 1939 qui parle de la fondation, qui s'appelle 20 ans après, qui parle de 1909 et qui dit, je cite, « On comprend que Marcel Proust est considéré comme une erreur inexplicable et scandaleuse, d'ailleurs réparable le refus qu'elle fit de Swann. Avec, à l'ombre, tout fut remis en place et les jeunes filles fleurirent dans leur terrain naturel. » Alors Antoine Compagnon, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce refus initial de la NRF du manuscrit de la recherche ?
Écoutez, moi il me semble que ce refus, il était assez normal. D'abord, en 1912, on ne peut pas oublier que les éditions de la NRF, c'était encore une toute petite maison d'édition. Ils n'avaient publié que des livres oui. assez petits. Hein. Ils n'avaient jamais publié de gros volumes comme celui-là. Quand ils ont vu arriver cette espèce de monstre qui était le manuscrit du côté de chez Swann, n'oublions pas qu'il était encore plus long puisqu'il comprenait une partie des jeunes filles en fleurs. J'imagine que ça faisait peur, un manuscrit comme cela. Et puis c'est vrai que Gide, ce qui s'en est excusé plus tard, a eu une réaction, Proust et Gide n'étaient pas du même monde. Hein. Pour Gide, protestant, un peu austère, Proust, comme il le dit plus tard, était du côté de chez Verdurin. Hein. Et on a dit, c'est Thibaudet qui le dit aussi, c'est la rive gauche contre la rive droite.
Claire Paulhan.
Et la littérature de Proust pouvait faire légitimement peur au premier groupe de la NRF, d'autant plus que Proust était un personnage, un auteur parmi les plus difficiles qu'on puisse traiter, ouais. Non seulement appartenant effectivement au Paris mondain de Madame Verdurin, mais quelqu'un qui accable ses éditeurs d'innombrables lettres extrêmement égocentriques. En tout cas, ils ont eu le baptême du feu avec Proust et ils ont été tout de suite du côté, dans le rapport entre l'éditeur et son auteur, ouais. Rapport des éditeurs qui étaient... coupable de ne pas avoir lu Proust attentivement, de ne pas avoir senti quel auteur ça allait devenir, quel prix il allait remporter, quelle place il allait avoir, mais aussi coupable de s'être laissé emporter probablement par l'idée que traiter éditorialement quelqu'un comme Proust était une sorte d'enfer d'éditeur.
Ça, il ne le savait pas vraiment encore, que ça serait un enfer. Mais c'est quand même Rivière qui a rattrapé la bévue initiale, la bévue de Gide. Rivière est l'un des premiers à avoir reconnu ses talents, oui.
La correspondance, les lettres que Proust envoie à Jacques Rivière sont déjà affolantes d'égocentrisme, où il râle parce qu'il ne trouve pas son livre dans les librairies. Il est continuellement en train déverser son acrimonie.
Il ne savait pas encore que ça serait comme ça. Quand ils l'ont refusé en 1912.
Je suis persuadée qu'il le savait déjà.
Comment on peut caractériser le positionnement de la NRF dans le champ littéraire de l'époque ?
Après 1919,
oui, dans l'entre-deux-guerres,
Antoine Compagnon. Quand la revue reprend, après 1919, il y a deux grands éditeurs parisiens qui reprennent le flambeau. C'est les éditions de la NRF qui deviennent Gallimard et puis Grasset.
Oui.
Et ils ont besoin... on est dans une époque... L'époque a beaucoup changé. Hein. Il y a des grandes revues qui sont publiées à partir du lendemain de la guerre. Il y a cette revue qui s'appelle Les Nouvelles Littéraires, qui est un hebdomadaire qui a beaucoup d'influence sur le public. Grasset commence à faire de la publicité pour les romans, avec les premiers romans de Radiguet. Et la NRF sert de vitrine à ce que deviennent... Il y a une dialectique importante entre la revue et la maison d'édition qui prend son essor à partir de ce moment-là. Et c'est donc très différent de ce qui avait lieu avant la guerre. D'accord. Où on avait un comptoir d'édition assez petit lié à la revue. Après la guerre, le rapport est très différent entre revue et maison d'édition, si vous voulez.
Le succès croissant de la revue entraîne la maison d'édition et vice-versa ?
Oui, les deux. Et puis alors, dans la revue, il y a les bonnes feuilles des livres qui sont prêts à paraître. Il y a des bonnes feuilles de livres qui sont d'ailleurs publiées chez Grasset et pas seulement chez Gallimard. Et la revue devient très importante dans cette... prise de pouvoir de la littérature française qui est largement celle de la NRF dans l'entre-deux-guerres. La NRF devient une vitrine de la littérature française grâce à la fois à la maison d'édition et à la revue, qui a une diffusion énorme. J'ai oublié quel est le
chiffre. Oui, alors j'ai quelques
maintenant.
Chiffres. Par exemple, 1919, on a 5000 exemplaires, dont 2000 abonnements. Et dès 1928, le chiffre atteint 12000 exemplaires. Donc on voit l'extraordinaire succès de la revue. Claire Polan.
Juste un point, la revue n'est pas uniquement la vitrine des éditions oui. de la NRF ou des éditions Gallimard, suivant le point de vue qu'on adopte. Elle est aussi un lieu où s'affrontent des tensions. Par exemple, il y a énormément de moments où, entre Jean Polan et Gaston Gallimard, il y a des lettres de friction et de fâcherie et de disputes même assez violentes, parce que Jean Polan a laissé passer dans la revue des critiques défavorables à des auteurs qui rapporte beaucoup d'argent aux éditions de la NRF, comme Kessel, par exemple. Mmh. Et Gaston Gallimard, lui, qui a une vision commerciale, mais pas au mauvais sens du terme, une vraie vision économique de ce que doit être à la fois la maison d'édition et la revue, n'entend pas que la revue tire contre la maison d'édition. Or, le point de vue de Jean Polan, en tout cas un de ses points de vue, c'était que la revue pouvait être aussi un lieu où on dégommait des auteurs qui étaient peut-être un peu trop chez eux, aux éditions de la NRF. Et cette tension, ce paradoxe, a été, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une des dynamiques de la revue.
Oui, il y a finalement une grande diversité au sein de la revue.
La
oui,
revue est très Antoine écuménique. Compagnon. La revue est très écuménique sur le plan politique, mais aussi très écuménique sur le plan littéraire. C'est-à-dire que les romanciers qui sont accueillis ou les poètes qui sont accueillis représentent des moments très différents dans l'histoire de la littérature, dans le classicisme ou l'avant-garde.
Oui, vous avez étudié justement ce rapport entre l'avant-garde et la tradition, entre la modernité et l'antimodernité. Alors comment on pourra caractériser la NRF ? Est-ce qu'elle est plutôt du côté de l'avant-garde, du surréalisme, par exemple, qu'elle accueille, ou plutôt de la tradition, avec des auteurs comme Monterland, Morand, plutôt néoclassique ? Et puis après, il y a aussi l'opposition politique entre les surréalistes proches du communisme et puis des auteurs de droite.
Elle accueille en effet l'avant-garde, hein, qui est représentée par le surréalisme dans ces années-là. N'oublions pas que les surréalistes, je citais l'exemple tout à l'heure d'Apollinaire, qui avait d'abord publié ailleurs, il y a des éditeurs plus spécialisés dans le surréalisme, comme Krah, et ensuite le surréalisme est venu chez Gallimard et à la NRF. Mais là aussi, non sans tension, hein. Il n'y a pas d'acceptation totale de ce que représente le surréalisme, ni par Poland, ni par Thibaudet, que les critiques de Thibaudet à l'égard du surréalisme sont très sévères, et elles sont publiées dans la NRF, où il y a Breton par ailleurs. On peut même dire que c'est très injuste ce qu'écrit Thibaudet dans la revue sur Breton et sur les autres surréalistes. Alors il y a un certain centre de gravité de la revue, qui est représenté peut-être par, je ne sais pas moi, Giraudoux. Il y a la présence de Valérie, très importante, qui est là. Et puis évidemment, il reste la présence très forte de Gide, mais qui est plus distant dans ces années-là.
Alors sur ce point précis du rapport de la NRF aux surréalistes, Claire Poulon.
Je crois que Jacques Rivière avait enfoncé un coin en publiant dans la NRF sa correspondance avec Antonin Artaud, par qui les surréalistes sont arrivés ou se sont installés un peu chez eux à la NRF. Mais très rapidement, la situation est effectivement devenue intenable parce que les tensions entre les fondateurs de la NRF, les directeurs actuels et la position de pouvoir que voulaient prendre les surréalistes dans le paysage littéraire français et en même temps de destruction, ce qui est tout à fait normal pour un mouvement d'avant-garde, mais sur le moment, on est arrivé à un point où il fallait vraiment rompre une situation qui ne pouvait plus durer de cette manière-là. Donc il y a eu un conflit. Après coup, j'ai l'impression que Jean Poulenc l'a assez maîtrisé, ce conflit de 1927 avec Breton, Éluard, Aragon et tous les surréalistes. Il a pris la défense d'Antonin Artaud qui avait été attaqué par les surréalistes pour simplifier un petit peu les choses parce que c'est une affaire bien sûr bien plus complexe. Et il y a eu à ce moment-là une bordée de lettres injurieuses des surréalistes qui sont maintenant des lettres canoniques d'injures et par ailleurs très intéressantes au point de vue de l'histoire littéraire. Jean Poulenc a réagi comme il a pu en publiant ces lettres dans la NRF et en provoquant en duel André Breton qui n'est pas venu. Probablement était-ce là une forme trop classique de règlement de compte. Toujours est-il qu'à partir de 1927, il y a une filière surréaliste qui n'est pas celle de la NRF. Et probablement que ça a beaucoup nui à la NRF, en tout cas de notre point de vue à nous. Mais il y a eu des retrouvailles. Certains membres des surréalistes n'ont pas plein leur plaisir d'être à nouveau rappelés dans la NRF. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses se sont considérablement arrangées pour de nouveau se détériorer avec le rapport entre les anciens surréalistes et le Parti communiste et la nouvelle NRF de 1953, mais ça c'est encore un autre sujet. Toujours est-il que la rupture fondamentale en 1927 avec les surréalistes enferme peut-être la NRF du côté des avant-gardes plus tranquilles, plus méprisables peut-être.
On va justement entendre la voix d'André Breton.
Pourquoi attachiez-vous un intérêt si spécial à ce que le vulgaire appelle des coïncidences ?
Du fait que, philosophiquement, le hasard objectif, qui n'est rien d'autre que le lieu géométrique de ces coïncidences, me paraissait constituer le nœud de ce qui était pour moi le problème des problèmes. Il s'agissait de l'élucidation des rapports qui existent entre la nécessité naturelle et la nécessité humaine, corrélativement entre la nécessité et la liberté. Je ne vois pas le moyen d'en parler en termes moins abstraits.
Abstrait, Breton le reste tout de même. C'était André Breton au micro d'André Parinaud en 1952. Est-ce que, Antoine Compagnon, vous pouvez nous éclairer sur ce propos ?
Il est en train d'essayer d'expliquer cette notion de hasard objectif, hein, qui est l'une des notions tout à fait clés et, à mon avis, l'une des plus belles, hein, du surréalisme qu'il expose notamment au début de Nadja. Et c'est l'idée que, enfin, le hasard objectif, ça nous arrive à tous, mais c'est la source du merveilleux de toute la poésie de Breton.
Donc on voit la prégnance théorique de l'avant-garde surréaliste, évidemment. On va écouter une autre archive, c'est toujours André Breton, cette fois sur les liens du surréalisme avec l'idéologie communiste.
Tout ce qui importe à ce point de vue, c'est de comprendre que, même si l'activité surréaliste, proprement dite, continue alors à se développer sur le plan qui est le sien, celui de l'expérience et de l'aventure intérieure, elle n'en reste pas moins sous-tendue par la préoccupation d'éviter un conflit de fond avec le marxisme. Il en est ainsi, non pas sans doute parce que la démarche de notre esprit nous a conduit irrésistiblement à retrouver et à vérifier les thèses marxistes par nous-mêmes, mais parce qu'il est indubitable que le marxisme porte, au moins jusqu'à l'époque qui nous occupe, la plus grande chance de libération des classes et des peuples opprimés. En matière de transformation sociale du monde, les considérations d'urgence primaient toutes les autres. L'outil voulu pour cette transformation existait et avait fait ses preuves. Il s'appelait le marxisme-léninisme.
On voit l'importance de la politique dans la théorie littéraire, dans l'entre-deux-guerres. Claire Polan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se joue le débat autour de la politique dans la NRF de l'entre-deux-guerres? Comment la politisation fait son entrée dans la revue?
C'est une affaire assez compliquée parce que se mélangent à la fois les prises de position de chaque personnalité et la prise de position de ce que doit être la revue. Je crois que J.D. Schlumberger était parti pour faire une revue purement littéraire en réaction contre l'époque et contre les autres vues, contre la dépréciation et la vulgarisation d'un certain nombre de créations intellectuelles. Celle de Jean Paulhan, celle de l'entre-deux-guerres, elle mêle la politique. Elle mêle la politique sous des aspects assez variés, en faisant appel à des idéologues ou à des gens qui sont capables d'écrire des textes d'idéologie, mais de points de vue assez différents, qui peuvent se contredire, mais qui peuvent surtout définir cette fameuse tension qu'une revue littéraire doit porter et rendre lisible à ses lecteurs. Et c'est ainsi que dans l'entre-deux-guerres, on a vu des textes théoriques qui étaient vraiment de l'ordre de la politique intellectuelle, aussi bien écrits par Jean Guéhenno que par Jacques Decour, Aragon, des gens très différents, Alain aussi, Jean-Richard Bloch. Vraiment, on a là un panorama intellectuel qui trouvait non pas un terrain commun dans la NRF, mais un lieu où publier et un lieu où confronter, un lieu où faire débat. Et c'est probablement une des dimensions dont on n'a plus idée maintenant, c'est qu'une revue littéraire puisse faire débat. Et ça, ça a été porté à son point d'incandescence, mais à son point de non-retour pendant la guerre, juste avant l'arrivée de Drieu-La Rochelle.
Oui, alors est-ce que cette politisation des débats est contradictoire avec le parti pris initial des fondateurs de mettre la littérature au-dessus de la politique, Antoine Compagnon?
C'est-à-dire qu'au moment où la revue a repris, en 1919, il y a en effet eu de très fortes tensions entre les fondateurs et Rivière. Le manifeste de juin 1919 que Rivière publie en tête de la revue qui reprend n'est pas tellement du goût des anciens. Il y a eu pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, une sorte d'union sacrée. En juin 19, il y a le manifeste de Rivière en tête de la NRF, et puis il y a le manifeste d'Henri Massis, de tonalité d'Action française, maurrassienne, et un certain nombre des fondateurs de la NRF sont à ce moment-là d'une sensibilité assez proche de ce manifeste presque maurrassien. Et il y a de fortes tensions. Je crois que ce qui va politiser la revue aussitôt après la Première Guerre mondiale, c'est le projet de réconciliation franco-allemande, dans lequel la plupart des membres de la NRF se retrouvent, Gide et Rivière. Et il y a, au début des années 20, une rencontre des intellectuels européens. Et la NRF est partie prenante, comme les décades de Pontigny qui reprennent après la Première Guerre mondiale.
Les décades de Pontigny, vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Les décades de Pontigny avaient été fondées par Paul Desjardins avant la Première Guerre mondiale, et c'était un lieu de rencontre. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu Cerisy, qui existe toujours. Mais les décades de Pontigny ont eu beaucoup d'importance. Ça fait partie du même ensemble, si vous voulez, de vie littéraire qui est très forte dans l'entre-deux-guerres, avec éditions, revues, rencontres, et ces décades qui sont de tonalité, je dirais, très européenne dans les années 20, qui mettent leur espoir dans la réconciliation européenne. Évidemment, à la fin des années 20, ce sera très vite perdu, cet espoir. Et les années 30 sont complètement différentes. Mais dans les années 20, avec Rivière et puis avec Paulhan et un ensemble qui comprend les anciens et aussi les nouveaux, y compris Drieu-La Rochelle qui écrit des textes sur l'Europe, hein, c'est le choix, si vous voulez, de Genève par opposition à Moscou. Et puis c'est tout ça qui est en question.
L'esprit de Genève dans les années 20.
C'est l'esprit de Genève, en effet. Et je crois que la première politisation sous Rivière, c'est celle-là. Alors ensuite, effectivement, dans les années 30, on a le sentiment que Paulhan veille à maintenir un équilibre entre tout ce qui est représenté dans la revue. Alain est le représentant du radicalisme français, qui est philosophe du radicalisme pendant toutes ces années-là, mais en même temps, on a les chroniques de Binda qui sont très lues, et puis il y a Suarez. Donc beaucoup de ces tonalités politiques sont représentées, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et on a le sentiment que Paulhan, le plus tard possible, dans des années qui sont très très conflictuelles, et c'est vrai que c'est étonnant de constater après coup aujourd'hui que des gens aussi différents pouvaient cohabiter dans une même revue, ce qui est très peu pensable pour nous aujourd'hui. Et ces gens non seulement cohabitaient dans les colonnes de la revue, mais se rencontraient dans le bureau de Jean Paulhan. Et c'est pas très imaginable aujourd'hui, hein, avec les, et en même temps écrivaient des textes extrêmement violents les uns sur les autres. Par exemple, je pense l'une des choses les plus extrêmes, c'est le texte de Jouandeau, publié en 1936, refusé par Paulhan, « Comment je suis devenu antisémite ?» C'est un texte contre Binda, qui vient de publier les débuts de sa autobiographie, « La jeunesse d'un clerc » dans LNRF. Jouandeau, l'un des grands écrivains, l'un des grands amis de Paulhan, l'un des écrivains centraux de LNRF dans ces années-là, réagit très violemment. Pourquoi je suis devenu ou comment je suis devenu antisémite? Paulhan refuse ce texte qui est publié dans l'Action française. Mais il n'en continue pas moins d'être proche de l'ANRF et d'y publier. Donc tout ça est très difficile à concevoir aujourd'hui.
La même manière qu'on parlait des décades de
Claire Paulhan,
Pontigny tout à l'heure, mais des gens comme Ramon Fernandez, Jacques Chiffrine, Mauriac, Malraux, Martin Chauffier aussi, on peut se retrouver le même été à Pontigny, débattre ensemble de la liberté de la presse, par exemple, danser ensemble. On a un film où on les voit. On voit Ramon Fernandez danser avec Louis-Martin Chauffier. Et voilà, et 3 ans après, c'est la Seconde Guerre mondiale, et tous ces gens vont se... Fini la danse, quoi.
Oui, c'est vraiment une période qui paraît difficile à comprendre aujourd'hui et qui mettait finalement le débat d'idées au cœur de ses préoccupations et où les lettres occupaient vraiment le devant de la scène. Antoine Compagnon.
Il est certain que la littérature était tout à fait centrale. Hein. Peut-être que là aussi, on a un certain mal à imaginer cela aujourd'hui, qu'une revue qui représentait la haute culture et la haute littérature, dont la tenue était toujours élevée, puisse avoir non seulement de tels tirages, mais une influence si considérable, représenter la France à l'étranger. Le rayonnement culturel de la France, il faut aussi le souligner, était très lié à la diffusion de revues comme celle-là. Il y en avait d'autres, hein, mais elle jouait un rôle de phare de ce qu'était la culture française. Par exemple aux États-Unis, où les auteurs de la NRF ont été très vite traduits. Dans mon bureau à Columbia, j'ai une collection complète de la NRF de l'entre-deux-guerres, qui était celle du traducteur Justin O'Brien, qui était le traducteur de Gide, le traducteur des auteurs de la NRF. Ce n'est qu'un exemple, mais on recevait la NRF dans le monde entier.
On voit bien l'importance des auteurs de la NRF et on voit que leur volonté initiale d'apparaître comme les nouveaux classiques se perpétue dans l'entre-deux-guerres avec un auteur comme Thibaudet, par exemple, dont on va entendre un extrait.
Les trois critiques Albert Thibaudet. Le poète parle de ce qu'il a senti, le voyageur de ce qu'il a vu, le professeur parle généralement de ce qu'il a lu. Le monde des lectures devient vite pour lui le monde réel, ce qui ne va pas toujours sans une certaine naïveté à la Don Quichotte, mais ce qui fournit au moins à la critique une base solide et de la nourriture à mâcher. Seulement, le professeur aussi est menacé de rouler sur une pente glissante. La critique de salon se fait volontiers une opinion en écoutant parler ceux qui ont vu le livre du jour, beaucoup plus qu'en le lisant. Il arrive de même que les critiques professionnelles lisent de préférence aux auteurs les lecteurs qui ont lu les auteurs et qui en ont écrit. De là des traditions d'idées toutes faites. Un paysan apporta un jour de marché un lièvre au Hodja de Konya, et le Hodja l'invita à dîner. Au marché suivant, des gens vinrent le voir et lui dire « Nous sommes les parents de l'homme qui t'a apporté le lièvre ». Le Hodja les invita encore. La semaine suivante, nouvelle visite. « Nous sommes les parents des parents de l'homme qui t'a apporté un lièvre ». Finalement, le Hodja convia ses visiteurs à un repas où l'on ne servit que des bols d'eau chaude. « Qu'est-ce que cela ?»« C'est la sauce de la sauce de la sauce de la sauce du lièvre ». Monsieur Van der Hem a trouvé que certains manuels ressemblaient trop à cette sauce-là, tout au moins en ce qui concerne le XIXe siècle. Et l'opinion ne lui a pas donné tort. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment de ce lièvre à la royale, qu'est par exemple le Port Royal de Sainte-Beuve, la critique passe à la sauce de la sauce de la sauce qu'est tel manuel. Comment s'est formé dans l'université le corpus de jugements qu'on répète et qu'on délaye, c'est peut-être la rançon d'une qualité et le revers d'une médaille.
Texte plein d'ironie, très intéressant parce qu'il réfléchit sur ce que c'est qu'un classique, Antoine Compagnon.
Il réfléchit surtout sur ce qu'est la critique universitaire et le manuel universitaire qui ne retourne pas au texte. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il ne retourne pas au texte et il se contente de la glose, comme disait déjà Rabelais, c'est les excréments littéraires.
Nous ne faisons que nous entregloser.
C'est l'histoire éternelle des manuels et de la pédagogie qui souvent se contente de seconde main et de dégradations successives. Je crois que c'est toujours un peu la même chose, mais il y a eu une importante querelle des manuels.
Oui, Van der Hem, qui est ce Van der Hem,
qui était ce critique ami de Thibaudet, assez ironiste, avait lancé cette querelle des manuels en montrant que les manuels répétaient tous la même chose dans les années 20. Et ignorer les meilleurs poètes comme Baudelaire pour louer d'obscurs poètes qui étaient en même temps inspecteurs de l'éducation nationale. Il y avait un certain Eugène Manuel qui était célèbre,
pour son
qui
nom,
s'appelait lui-même Eugène trouvé. Manuel et qui était dans tous les manuels parce qu'il était inspecteur général de l'éducation nationale.
Alors, quelle est la conception que Thibaudet se fait de la critique? Il y a d'un côté la critique littéraire et de l'autre la critique universitaire. Alors, la critique à la NRF, comment elle se...
Thibaudet a cette idée qu'il y a donc trois critiques. La critique de salon, la critique journalistique, qui est la critique fondamentale. C'est nous qui parlons des livres après les avoir lus, et puis les journalistes qui écrivent sur les livres dans l'immédiat. Il y a la critique des professeurs, qui s'est instaurée au XIXe siècle, c'est celle de la Sorbonne. Et puis, il y a la critique des écrivains, et à ses yeux, c'est la plus importante. C'est celle de Gide parlant de Dostoïevski, c'est celle de Proust parlant de Flaubert ou de Racine, ou de Baudelaire. Et la critique de la NRF ou celle de Thibaudet, il ne veut pas être professeur, puisque le professeur, c'est celui qui s'occupe de cette sorte d'écume des lettres. Bon, il n'ose pas être écrivain, il ne prétend pas être écrivain. Et il me semble que la critique de la NRF dans ces années-là, c'est le meilleur de la troisième critique, qui est encore celle de la vie littéraire. C'est celle du salon, c'est celle du grand journalisme, c'est celle de la vie littéraire, la critique vivante des gens qui lisent et qui en parlent bien parce qu'ils ont beaucoup de culture et qu'ils dialoguent entre eux. Mais c'est une critique conversationnelle, si vous voulez.
Et c'est aussi ça l'idéal de la critique à la NRF ?
Ben, on a parlé tout à l'heure de Rivière. Rivière était certainement beaucoup plus théoricien dans sa conception de la littérature. Et justement, il supportait assez mal Thibaudet dans son aspect bavard et conversationnel. Mais dans les années Pollan, Thibaudet a eu la bride sur le coup et c'est lui qui a représenté la critique à la NRF. Alors évidemment, quand on lit par ailleurs les textes de Pollan dans les Fers de Tarbes, oui, c'est pas tout à fait la même chose.
On va y venir justement, c'est des années d'une forte élaboration théorique pour Jean Pollan, puisqu'il écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Les Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres. Alors Claire Pollan, sans expliquer tout ce que signifient Les Fleurs de Tarbes, qui est un ouvrage compliqué, peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi Les Fleurs de Tarbes, pourquoi ce titre déjà?
Alors pourquoi Les Fleurs de Tarbes? Parce qu'à Tarbes, il existe, et il existe peut-être toujours, un jardin public où il est marqué à l'entrée, il est interdit d'entrer dans ce jardin avec des fleurs à la main. Voilà, et à partir de cet écriteau, à l'entrée du jardin public de Tarbes, où mon grand-père a séjourné pendant la Première Guerre mondiale, il a bâti toute une théorie sur la critique terroriste et la critique littéraire qui porterait de ses voeux, avec l'idée que la terreur est du côté des surréalistes, du côté de l'avant-garde, etc., et le classicisme est de l'autre côté. C'est une affaire assez compliquée à expliquer. Tout ce que je peux vous dire de manière plus pratique, c'est qu'il a commencé à travailler à ce texte-là juste après la Première Guerre mondiale, qu'il en a publié des passages choisis en 1936 dans la NRF, après avoir accablé ses interlocuteurs de réflexions sur son travail en cours, qu'il l'a publié pendant la guerre sous forme de volume en 1941, et qu'il a beaucoup sollicité de ses interlocuteurs, et là encore de ses interlocuteurs les plus divers, une réaction. Et certains ont été capables d'une réaction aussi théorique que la sienne, comme Brice Parrain par exemple. Joué Bousquet aussi a été capable d'écrire lui-même un texte sur les fleurs de Tarbes. D'autres ont été un petit peu submergés ou n'ont pas bien compris le propos. Félix Fénéon aussi a beaucoup goûté les fleurs de Tarbes, un des derniers textes qu'il ait lu avant sa mort. Et il dit dans une lettre à Jean Pollan, « La lecture des fleurs de Tarbes devrait dégoûter tout écrivain de la critique.
» Très belle formule sur la critique. Est-ce que Antoine Compagnon, on peut trouver dans la position esthétique de Jean Pollan avec les fleurs de Tarbes cet équilibre entre les deux pôles dont on a parlé tout à l'heure?
Il est certain que dans les fleurs de Tarbes, il y a une bête noire, c'est ce que Pollan appelle les misologues, ceux qui haïssent le langage, qui ne font pas confiance à la langue, qui se méfient de la langue, et ceux qu'il vise à travers cette expression, c'est au premier chef les surréalistes. C'est toute cette tradition de vouloir détruire la langue d'une certaine façon. Et c'est quand même une réaction de défiance de la part de Pollan à l'égard d'un certain nombre d'avant-gardes. Et par opposition à ces terroristes, à ces misologues, il défend ce qu'il appelle les mainteneurs. Alors, bon, il utilise cette expression de maintenance, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à préserver, qu'il y a quelque chose à sauver quand même. Et ce qui est à sauver, c'est cette confiance dans la langue. Ce que Pollan cherche à défendre, c'est une rhétorique commune. Il y a beaucoup de renvois dans les fleurs de Tarbes à la rhétorique. Pollan comptait faire un autre ouvrage qui serait le pendant positif de cette critique qu'étaient les fleurs de Tarbes. Le volume positif, bon, il n'a pas été en mesure de le faire, il était sûrement très difficile à faire. Le projet aurait été une nouvelle rhétorique, mais une rhétorique qui ne fut pas pour autant un retour à une rhétorique traditionnelle, une autre rhétorique. Une rhétorique qui fut à la fois classique et moderne, qui ne put être identifiée ni aux avant-gardes et à leur méfiance du langage, ni à un retour à une certaine tradition.
Oui, alors c'est Jean Pollan, cet amoureux de la langue et aussi des paradoxes, qui dit vouloir laisser la place à la fois à l'orthodoxie et au saugrenu, qui peut-être peut incarner cet équilibre entre les deux pôles que nous avons vus. Claire Pollan.
Oui, on peut imaginer qu'il est... Est-ce qu'il est un pôle d'équilibre? Il est aussi un pôle de déséquilibre, parce que ça fait partie de ces fameuses tensions qui doivent animer la vie intellectuelle. Il est aussi quelqu'un qui, pendant les années de l'entre-deux-guerres, tient les rênes de tout ça. En tout cas, dans le milieu intellectuel ou littéraire français. Mais moi, il y a une chose qu'il a faite à la NRF en 1933 et qui me tient particulièrement à cœur, et qui est peut-être le paradoxe poussé jusqu'à sa plus extrême ambiguïté. Il a lancé une enquête sur la littérature française contemporaine. Et cette enquête s'est traduite par un appel à manuscrits, mais non pas auprès des auteurs contemporains, ceux qu'il avait déjà en lecture pour les éditions de la NRF ou pour la revue, mais auprès de tout un chacun. Et il a eu, bien sûr, une quantité de manuscrits épouvantables qui sont arrivés sur son bureau, et il a publié en octobre 1933 le tableau de la poésie avec des textes de parfaits inconnus. Parmi ces parfaits inconnus, il y en a quelques-uns qui sont devenus des écrivains connus, comme Jacques Audiberti ou Boncorps, par exemple. Parmi ces écrivains connus, il y en a qui le sont restés complètement. Par exemple, la Bouchère de Saint-Mexant est restée la Bouchère de Saint-Mexant. Pour autant, son texte, qui a été imprimé, qu'on peut lire, est quand même représentatif d'une forme littéraire en 1933 en France. Et qu'une revue comme la NRF, qui était une revue de haute littérature, avec des vues extrêmement intellectuelles sur la fonction de la littérature, et puis aussi provoquer la publication de ce genre de manuscrits, je trouve que c'est intéressant de mettre ça en avant dans le rôle de la NRF pendant l'entre-deux-guerres. Et le rêve secret de Jean Paulhan, c'était de publier sur papier Bible, mais bien sûr c'est une boutade, tous les manuscrits refusés par la NRF pendant une année.
Antoine Compagnon.
Et il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'il y avait à la fin de la NRF. Parce qu'au début, il y a les bonnes feuilles des livres à paraître, il y a les articles sérieux, il y a les chroniques d'Alain, de Mindat, Thibaudet. Puis à la fin, il y a beaucoup d'anecdotes. Enfin, il y a toute cette partie où, par exemple, où Singria, qui était là lui aussi protégé par Paulhan, écrivait beaucoup. Et il y avait un côté anecdotique et un peu saugrenu, proche du fait divers hein, auquel Paulhan s'intéressait tellement et qui donnait à la revue enfin, un autre côté que cette haute tenue intellectuelle. Donc, il y avait la chronique financière, la haute littérature, et puis le côté anecdotique.
Il y a même des courriers de lecteurs assez amusants dans la NRF de ces années-là, qui tranchent avec les propos théoriques et sérieux.
Je suis sûr que beaucoup de lecteurs commençaient par ces dernières pages de la NRF.
Claire Paulhan.
On voit bien dans les archives de Jean Paulhan les lettres qu'il reçoit des uns et des autres. Il entoure au crayon gras, vous savez qu'on avait à l'époque bleu d'un côté, rouge de l'autre, le passage qu'on va retrouver dans la NRF suivante. Et ça devient cette rubrique qui s'est appelée l'ère du moi, oui. Et qu'Audiberti ou Singria ont beaucoup nourri. Et puis lui-même faisait, parfois sans signer, parfois sous le pseudonyme de Jean Guérin, des petites nouvelles, dont parlait Antoine Compagnon, qui sont très proches des nouvelles en trois lignes que faisait Félix Fénéon dans Le Matin en 1905. C'est vraiment ce même esprit, un regard sur la vie contemporaine, mais passé au filtre d'un esprit littéraire et d'un paradoxe humain.
On a vu aujourd'hui toute la richesse de la Nouvelle Revue Française qui a su accueillir pendant les années 20 et 30 toute la diversité de la littérature, qui en quelque sorte a su accueillir l'avant-garde et l'arrière-garde au sens que Barthes lui donnait. Être d'avant-garde, c'est savoir ce qui est mort. Être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. Demain, nous parlerons des heures sombres de la NRF avec Gisèle Sapiro et Jacques Lecarme. Merci Claire Paulhan. Je rappelle que vous dirigez la maison d'édition Claire Paulhan. Antoine Compagnon, merci également de nous avoir rendu visite. Vous êtes professeur au Collège de France et à l'Université de Columbia. Je rappelle que vous avez publié Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, ainsi qu'une nouvelle édition des Réflexions sur la littérature de Thibaudet en 2007.